travaillait un peu ce venez plutôt que cet aller. Moi, j'aime bien dire aller, hein, puis je l'enseigne souvent, mais ça m'a interpellé que Dieu me dise venez. Et donc, j'espère que ça vous interpelle aussi dans ce temps de confinement. Et j'ai été étonné de faire ce parcours biblique où il y a 7 fois, je pense que ce n'est pas un hasard, un venez dans les évangiles. Et donc, je vous propose pendant 1 ou 2 dimanches d'examiner ces venez de Jésus. Alors, pour commencer ce thème, on va, juste une exception au Nouveau Testament, faire un petit saut dans l'Ancien Testament. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de commencer cette étude en disant, mais au fond, ce qui va fonder ces venez du Nouveau Testament, c'est peut-être les venez de l'Ancien Testament. Parce que Jésus était juif, et il parlait aux juifs, et ils avaient toute cette culture de l'Ancien Testament. Je me dis, bon, ben, si je prends tous les venez de l'Ancien Testament, on en a déjà pour 10 dimanches avant de commencer. Donc il me semble que ce n'est pas tout à fait ça, puisque Jésus m'encourageait à venir à lui et puis à vous communiquer ça. Donc je me suis dit, je vais regarder juste le dernier. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Le dernier venez de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? J'ai vérifié dans la concordance, j'espère pas m'être trompé, il y a plein de venez, mais j'ai regardé le dernier. Ça pourrait être lequel? Est-ce que quelqu'un a une idée, le dernier venez? Alors, ce n'est pas Jésus dans l'Ancien Testament.
C'est vraiment l'opinion?
Oui. Après, sur certains venez, selon les traductions, on a des petites nuances. Mais... Tu peux le dire. Tu penses auquel? Ah oui, il ramène le cœur des... Ouais. Ouais. Non, mais c'est un autre qui dit vraiment venez. Oui, parce que celui-là, il est tout à la fin, c'est vrai. Hein, c'est dans les derniers versets.
Et venez, vous croirez quelque part?
Venez.
Et vous croirez quelque part?
Certainement qu'il est, mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament, celui-là, non. Quelqu'un a une autre idée? Je vous aide un petit peu. C'est dans quel livre, vous pensez? Dans les petits prophètes, ça va, c'est un petit peu... Oui, Zacharie, Malachie, ça pourrait être par là autour. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Michée. C'est le dernier que j'ai trouvé. Michée 4, 2. Alors, des fois, on a un petit peu de peine à les trouver. Hein. Abias, Michée, Jonas. Jonas, Michée. Michée 4, 2. Je trouve que c'est particulièrement intéressant, c'est un de mes textes préférés, je l'ai prêché pour des mariages, parce que vraiment c'est un beau texte qui nous donne une perspective sur ce qui vient, et je trouve que c'est super intéressant que ça soit le dernier venez qui va nous fonder, donner un socle à notre réflexion de sur quoi Jésus partait pour nous dire de venir à lui. Alors, Michée 4, on va lire les versets 1 à 4. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. De leurs glaives, ils forgeront les hoyaux, ou les socs de charrues, hein, et de leurs lances, ils formeront des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son propre Dieu. Nous, nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Quel beau texte! Et je trouve que c'est super dans un temps de pandémie mondiale de jamais oublier, Sylvain a prié pour ça, pour qu'on soit encouragé par ces paroles ce matin. Quel encouragement! Et on a de la foi, de la peine à se rappeler quand on doit compter nos sièges et nos distances et nos masques et nos distances sanitaires et sociales. On a de la peine à se souvenir quand jour après jour, matin, midi et soir, on entend des choses négatives et que c'est hors de contrôle, comme aux États-Unis, on nous dit là depuis hier, etc. Comment ne pas repasser? Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les compassions de Seigneur ne sont pas épuisées et ces compassions donnent une perspective. Je ne suis peut-être pas toujours aujourd'hui à sentir Dieu, à sentir son onction, être encouragé, qu'est-ce que je fais? Quand je veux être encouragé, je me mets dans la perspective de Dieu. Et la perspective de Dieu, c'est de souvenir que même supposons qu'on attrape le Covid, même supposons que notre monde s'écroule, que l'économie s'écroule, le pire des scénarios, puisqu'il y a des complotistes des fois, moi j'ai des sursauts, hein, en général je ne suis pas complotiste, puis tout d'un coup j'ai un article et puis je lis un truc qui m'a l'air vraiment quand même fondé. Là, j'en ai lu un cette semaine, je me suis dit, mais c'est comme incroyable, c'est un professeur normalien français qui a l'air équilibré, posé, qui dit ces trucs, quoi. Mais ça fait peur, je me dis, mais tu vas devenir complotiste ou pas? Je me dis, mais il a l'air vraiment équilibré, non, mais si c'est vrai ce qu'il dit, mais voilà. Donc, des moments où on a le pire des scénarios, ben, allons-y à fond. Pire des scénarios, on imagine chacun ses plus grands fantasmes de peur, de crainte. Eh bien, souvenons-nous, même si c'était ça, que la perspective, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas les petites églises qui ont des faux docteurs et des faux prophètes. La perspective de Dieu qui doit être ancrée là, qui est notre fondement, c'est que les peuples entiers, pas un petit groupe élu sauvé, les peuples entiers vont marcher à la lumière de Dieu. C'est la parole de Dieu, ça. Il y a d'autres textes qui disent un peu différemment, mais il faut au moins les tenir en tension. Hein. On est les évangéliques, on n'est pas universalistes, on n'est pas tout le monde y sera beau, tout le monde y sera sauvé, on est bien en fer. Bon, ben c'est vrai, c'est une réalité, on ne peut pas la gommer. Mais il y a aussi cette réalité qui nous est dit que les peuples en masse, ils vont venir à la montagne de l'Éternel, qu'à la fin de la fin, ce qui sera fondé au-dessus même de Jérusalem, au-dessus des montagnes, au-dessus de tout, fondé sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus de tout, c'est la montagne, la maison, le lieu de la présence de Dieu. Et les gens ne vont pas dire, oulala, ça nous fait peur, c'est le jugement, on a compris qu'on était tout à côté. Ils vont dire les uns aux autres, montons à la maison de l'Éternel. Parce que la loi, elle est là, elle est bonne, et nous allons marcher, nous allons nous entraîner. Et ça va avoir une conséquence concrète sur nos vies, c'est que des bombes nucléaires vont être transformées en outils de paix et de bénédiction. Ça, c'est le projet de Dieu. Et puis nous, nous pouvons dire que ben, les autres aujourd'hui, bien sûr, ça finit par ça, ils marchent chacun selon leur Dieu. Il y a plein d'idoles, plein de trucs, mais nous, ben, on va s'encourager, on va marcher au nom de l'Éternel, notre Dieu. Et on peut repasser ces paroles dans notre cœur, et ça fondera notre espérance et notre solidité en Christ, en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Et je vous attire juste, puisque c'est sur le mot « venez » que je voulais qu'on se concentre, qui prononce dans ce verset-là le mot « venez » ? Qui dit « venez » ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est le roi ? C'est qui ? Comment ? Non ? Pas les prophètes, le peuple. Les païens, les nations. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte qu'on peut proclamer aussi comme une vérité biblique un jour, à la fin des temps, les gens, même pas le roi, même pas le prophète, même pas le peuple de Dieu, même pas Israël, même pas les grands chrétiens, même pas Dieu qui va dire, ben venez à moi. Mais c'est les hommes et les femmes qui un jour vont réaliser, vont comprendre, vont dire, venez, montons. Les païens vont s'entraîner pour exhorter, venons, allez, viens toi, on va à la maison de l'Éternel. Vous vous rendez compte ? C'est merveilleux ça. Passons ces paroles dans notre cœur. Et je voulais vraiment qu'avant d'entendre tous les venez de Jésus, on sache que c'est du peuple juif, dans le peuple juif, dans l'histoire d'Israël, avec cet Ancien Testament et ses prophètes qui annonçaient ça. C'était ces derniers petits prophètes, c'était l'espérance d'Israël. Et ils croyaient, ils enseignaient ça à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants en disant, voilà, un jour le monde entier va se tourner vers Dieu et puis il va dire, montons la maison de l'Éternel. Mais c'est extraordinaire, on peut se réjouir de cela. Donc vous êtes, on imagine, hein, il y a 2000 ans, vous êtes un juif, vous êtes un Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous êtes un disciple, vous cheminez avec Jésus. Il vit là, on attend le Messie, on ne sait pas toujours encore si c'est lui ou c'est pas lui. Et puis on est 3 ans avec lui sur terre, avec les hauts, les bas, les questions, comme vous connaissez toute la vie des disciples. Et on va écouter ces 7 fois où il leur a dit, venez. Alors est-ce que, avant qu'on ouvre le premier, on peut en citer comme ça de tête, est-ce qu'on arrivera à trouver les 7? Je ne pense pas. Peut-être. Allez. Voilà, vous avez tous entendu, hein, c'est le plus connu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, on le prendra tout d'abord en premier, bien sûr, c'est le plus connu. Un autre.
Venez à moi les petits-enfants.
Laissez venir à moi les petits-enfants, oui.
Venez et voyez.
Venez et voyez, plusieurs fois.
Venez et manger.
Venez et manger, tout est prêt. Pour la Sainte Cène et pour, il y a aussi les paraboles quand il y a des invités au repas. Un autre encore.
Oui.
sous la vigne.
Un autre? Venez, vous qui avez soif. Grand jour de la fête. Venez, vous tous qui avez soif. Sans rien acheter, sans rien payer.
Venez, je vous donnerai je ne sais plus quoi.
Du repos, c'est ce qu'elle a dit. Un autre, encore? Je ne crois pas qu'on a encore tous les sept. Il y en a un magnifique. Jugement dernier, qu'est-ce qu'il dit?
Venez les
bénis de mon Père. Mais est-ce qu'on entend ce cri? Déjà par anticipation, on va entendre bientôt ce cri. Venez les bénis de mon Père. Ça peut nous vraiment, dans le Covid, hein, ça peut renouveler notre espérance. Alors le premier, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 11, 28. On va lire 28 à 30. On les connaît presque par cœur, ces textes, mais je crois vraiment important de les relire ensemble ce matin pour être encouragés. Matthieu 11, 28. Je vous invite vraiment à noter ces sept « venez ». Venez à moi, nous dit Jésus, parce que ça va renouveler notre espérance, ça va nous aider à aller. Et dans ce temps d'épreuve, de temps de mise à part, on peut méditer, on peut travailler, on peut se préparer à ces temps nouveaux qui viennent. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Déjà que celui-là, on pourrait s'arrêter. Il faudrait maintenant partir en retraite, méditer, marcher, revenir ensemble, louer, adorer en proclamant ce verset jusqu'à ce qu'il entre au tréfonds de notre être et qu'on le proclame sur chaque cellule, sur chaque nerf, sur chaque muscle, sur chaque partie de notre corps. Et quelle relation d'aide on pourrait gagner, on pourrait avancer, je suis sûr, avec une proclamation de foi comme ça, une guérison. Mais il faudrait bien sûr le temps de le proclamer, de le marcher, de le laisser descendre. Chacun de ces mots est tellement important. Première chose que je relève, juste deux, trois petits points pour chacun de ces « venez ». Venez à moi, donc à moi, ben, ce n'est pas venez à l'église, c'est même pas venez à la Bible, c'est même pas venez vers vos frères et sœurs, tout ça c'est vrai, c'est juste, c'est important, hein, c'est autre chose. Mais là, c'est venez à moi. Sylvain l'a lu, en lui, par lui, pour lui, venez à moi. Est-ce que nous savons toujours, nous chrétiens, 10 ans, 20 ans, 50 ans, est-ce que nous savons encore bien sûr, on va à lui par la louange, on va à lui par la parole, on va à lui par l'église, on va par les frères. D'accord, mais est-ce qu'on sait aller directement comme ça? C'est une des forces du protestantisme, sans intermédiaire. Venez à moi. Est-ce qu'on sait juste aller à Jésus? Est-ce qu'on sait le vivre régulièrement, en permanence? Venez à moi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Vous êtes fatigué, chargé. Il reconnaît notre état. Il n'est pas en train de nous dire, attention, tu es un chrétien, comme beaucoup de messages, tu ne devrais pas être fatigué. Si tu étais un bon chrétien, si tu lisais plus ta Bible, l'ennemi il est doué, même des fois les frères et sœurs, même certains pasteurs sont doués pour nous faire sentir qu'on ne devrait pas être fatigué ou chargé. Si tu as fait ta bonne relation d'aide, si tu as su cheminer avec Dieu, tu es renouvelé, je suis vu tout par Christ qui me fortifie. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi chargé? Pourquoi être chargé? Fatigué et chargé, ben oui, venez à moi. Il parle à ses disciples. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être chargé, je vous donnerai du repos. Je ne vous donnerai pas des nouveaux commandements, des nouveaux trucs, des nouvelles théories, des nouveaux... Voilà. Je vous donnerai le repos, c'est ce que vous avez besoin. Le Seigneur dit sans culpabilisation, sans moralisme, simplement, venez à moi, je vous donne du repos. Vous êtes fatigué, chargé. Une vérité sur nous qui est encourageante. Je suis doué et humble de cœur, c'est-à-dire je ne vais pas vous chercher des noix. Vous savez, des fois, il dit, j'aime bien les enfants, laissez venir à moi les petits-enfants, parce qu'ils sont simples comme ça. Ils ne posent pas trop de questions. Et là, le Seigneur nous dit aussi qu'il est simple, qu'il est humble de cœur. Et dans ces théories complotistes, ou dans certains messages, ou certains enseignements, alors je sais que je ne méprise pas du tout le ministère des docteurs qui peuvent creuser à l'infini des textes bibliques, faire des bouquins comme ça épais sur un demi-verset, disséqués dans tous les sens. C'est bien, ça peut avoir sa place. Mais là, c'est autre chose. C'est vraiment, venez à moi, je suis doux et humble de cœur. quand on trouve des moi ça m'arrive des fois, hein, quand on a des théories ou des hésitations trop complexes pour l'Église, pour le monde, pour Dieu, etc., je crois qu'il faut savoir laisser de côté des moments. Juste venir à lui parce qu'il est doux et humble de cœur. Je vous enseignerai, je vous donnerai ce repos et vous recevrez mes instructions. Dieu veut nous former, Dieu veut nous enseigner. Et vous voyez, ça rejoint complètement les hommes et les femmes dans ce texte du prophète, dans l'Ancien Testament, qui nous dit, les hommes et les femmes, ils réalisent ça, qu'il va donner des instructions. Il dit, venez, montons la montagne de l'Éternel, il nous donnera ses instructions. Enfin, l'homme, dans toute sa splendeur humaniste, comprend que ce n'est pas la psychologie, la philosophie, même la religion et tout ça, qui ultimement va nous amener le bon enseignement. C'est qu'au moment où on se tourne, venez, on monte, on va à la montagne de l'Éternel, il nous donnera des instructions. On comprend qu'il y a un enseignement, qu'il y a un secret, qu'il y a une base de la compréhension qu'on n'a pas hors de Dieu. Et vous imaginez si la France, si les penseurs faisaient cette conversion-là. Souvent on explique la croix pour le salut, c'est super bien. Mais d'expliquer juste à un Français rationnel qui peut chercher tout ce qu'il veut, s'il plie pas, s'il capitule pas à un moment donné sa pensée devant qu'il y a une révélation, qu'il y a une vérité en Dieu, eh ben, il n'y arrivera pas. Il y aura toujours une pièce centrale qui manquera. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre ça? Que dans tous nos raisonnements, même des fois bien évangéliques, on a besoin de comprendre, est-ce que je reçois vraiment, dans cette circonstance-là, l'instruction du Seigneur? Que je suis vraiment dans l'écoute de sa voix. Et ça, c'est le repos, parce que son joug est doux et léger. Quand on a des jougs qui ne sont pas doux, pas léger, on est fatigué et chargé pour venir à Jésus qui va nous libérer pour aller. Et si je m'aperçois encore que j'ai de nouveau un joug qui n'est pas léger, c'est que je ne suis pas dans le bon chemin. Je reviens à Jésus, venez à moi. Et voilà, sans cesse revenir à lui, simplement dans cette simplicité. Seigneur, me voici, je ne vais peut-être pas bien, je suis peut-être chargé, j'ai peut-être des questions, mais simplement je viens à toi et tu m'accueilles sans aucune récrimination. Ton joug est léger et tu vas me donner ce repos. Et qu'on vienne autant de fois qu'il faut, par jour, quand on a un mail, quand on a un téléphone, quand on travaille n'importe où, qu'on a de nouveau une circonstance difficile, pas de souci. Seigneur, je viens à toi, je veux recevoir de toi ce repos. Deuxième, venez, c'est Matthieu 22. Vous voyez, on va en suivant, hein, je les prends vraiment en suivant, et c'est intéressant aussi que ce soit donné comme ça. Premier, venez de Jésus avant aller. Viens à moi déjà, que tu sois reposé. C'est bien comme schéma. Ça commence déjà par le repos. Deuxième, c'est Matthieu 22. On va lire versets 1 à 10. Quelques pages plus loin dans nos Bibles. Matthieu 22. C'est la parabole de la grande invitation. Vous connaissez bien ce texte où chacun s'excuse. Et c'est intéressant dans cette parabole, justement, je vous invite à être attentif dans cette lecture, que ce qu'on retient souvent, si on devait la résumer, moi, en tout cas, je ne sais pas vous ce qu'on retiendrait si je vous demandais une fois, mais c'est aller par les rues, finalement, je ne voulais pas venir, hein, aller par les rues, chercher tous les gens, presser les entrées, c'est un peu ça qu'on fait, donc c'est loin, aller. Comme aller, faites de toutes les nations des disciples. Mais on oublie qu'avant cet aller, là aussi, il y a un venez. Vous voyez, c'est intéressant que même dans ce texte, ils sont les deux contenus, mais c'est bien l'ordre des choses. Est-ce que je viens avant d'aller? 22, 1 à 10. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et leur dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses, tout est prêt, venez !» Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Les autres saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces, etc. etc. » Donc vous voyez qu'avant cet aller, il y a vraiment cette première chose qui aurait dû normalement se passer, qui ne s'est pas passée, c'est « Venez, tout est prêt, j'ai préparé pour vous un festin, les noces de l'agneau pour nous, et déjà ces rencontres régulières avec lui, ces moments de fête avec notre Dieu. Venez. Et après, on se souvient de la parabole, bien sûr, ça n'a pas été comme ça. Les gens, ils avaient des excuses. Et donc Dieu, comme en garade hier soir avec sa belle parabole dans la veillée pour répondre à Kelly Esteban, mais pourquoi alors Dieu, comment il fait? Eh bien, il s'arrange par son amour. Eh bien, il sait bien qu'on est à côté, mais il va cheminer, il va persévérer. Ben là aussi, mais ne retenons pas que la normalité, c'est aller dans les rues, aller chercher des gens parce que les gens ne veulent pas venir. Ce que Dieu voulait au début, c'était simple, hein, que son amour, c'est nous inviter à un repas et tout était prêt. Et je crois qu'on a besoin de retrouver dans ce temps compliqué la simplicité de Jésus qui dit, viens, tout est prêt. Avant de te dire, va faire des disciples, trouve une nouvelle méthode, fais croître l'église, tout ça c'est juste. Je crois qu'on doit vraiment travailler à ça. Mais il y a un ordre des choses, d'abord, et encore toujours, hein, c'est pas fait une fois pour toutes, on est bien d'accord, c'est pas une fois on aurait compris, le venez, puis on pourrait aller pour toujours. Non, on veut aller tout le temps, et tout le temps il faut venir à lui. Tout le temps il y a ce venez. Et là il nous dit, avant de nous dire, allez chercher, il nous dit d'abord, venez. Venez, tout est prêt. Troisième, allez, c'est Matthieu 25, 34. C'est celui que j'aime beaucoup et qu'Angarad a relevé tout à l'heure. C'est ce jugement dernier. Matthieu 25, verset 34. On va lire les versets 31 à 36. Matthieu 25, 31 à 36. Ah, dis donc, c'est plus rapide que moi, c'est formidable. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, encore une fois. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez. » Prenez, encore un impératif, possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Extraordinaire, vous avez vraiment cette tension entre les... C'est bien parce qu'on a été, parce qu'on a entendu cette « aller » pour les prisonniers, pour ceux qui sont nus, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont malades. Il y a cette allée en permanence. Je ne veux rien diminuer, cette allée. Allons, mes frères et sœurs. Nourrir, accompagner, guérir. Mais il y a ces venez. Et là encore, de nouveau, cette perspective eschatologique qu'on doit garder. Parce qu'il ne faut jamais oublier cet angle de vision de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur l'hier ou sur l'aujourd'hui avec Dieu. On est tourner vers ce qui vient. Bon, lui, il est le Dieu de l'éternité et du présent. Hein. Il est, il était, il vient, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais nous qui sommes dans le temps, nous devons garder toujours cette perspective de où on va, la direction, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu donne. Et là, ça m'encourage de savoir que, oui, je me bats et j'essaye aujourd'hui d'aller visiter, interpeller, encourager, visiter, on a tous à le faire. Mais la parole que je dois entendre pour m'encourager, qui me rejoint, c'est « venez ». Viens, viens, toi qui es béni de mon Père. Jésus dit à ses disciples, il leur enseignait, n'oublions pas que là c'est avant la crucifixion, c'est avant la résurrection, c'est avant toutes les épîtres de l'enseignement de l'Église, il n'y a pas d'Église là. Il y a juste Jésus et ses disciples, et il leur enseigne comme s'il disait, mais n'oubliez jamais dans les temps, en 2010 quand vous aurez le Covid, tout ça, vous voyez, n'oubliez pas la perspective eschatologique, il y a une chose qui va se passer, c'est que la fin de la fin de la fin, c'est que je vais vous dire, vous aurez fait ce que vous avez pu, mais je vais vous dire, venez, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Le quatrième, si je compte juste, venez, Matthieu 28, 6. Matthieu 28, 6. Matthieu 28, 6, on va dire les versets 1 à 7. Matthieu 28. Alors le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. Donc nous aussi, des fois, on tremble, puis on est pétri de peur avec ce qui se passe. Donc, pensons qu'on est comme ça. Eh bien, l'ange, mais l'ange prit la parole quand ils sont tremblants de peur. Eh bien, il dit aux femmes, pour vous, ne craignez rien. Je sais que vous cherchez Jésus. Il a été crucifié, mais il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché et allez, voyez la proximité, promptement le dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et il vous précède. Voilà, extraordinaire. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez. Venez voir le lieu où il était, puis allez. Nous allons, mais est-ce que nous savons regarder le doigt de l'ange qui pointe un lieu sur la pierre où était couché Jésus? Regardez. Et si Jésus, par l'ange, là, nous dit, et dit à ses disciples, venez voir là le lieu, eh bien, ça indique quelque chose de très intéressant. Nous, on a envie de dire, voyez là le ressuscité. On aimerait pointer la gloire du ressuscité. Et là, les disciples, ils sont tristes. Les femmes, elles ont peur. Ils sont très chamboulés, bien pire qu'avec notre Covid, peut-être. Ces pauvres disciples, ils viennent de vivre là la croix, l'arrestation, le reniement, le coq qui chante, hein, tous ces événements. Il faut pouvoir s'y remettre un peu dedans. Nous, on lit ces textes comme ça, là, dimanche matin, on prend juste cette péricope, puis on dit c'est super, il est ressuscité, alléluia, un beau texte de Pâques. Mais vous imaginez, on se met un tout petit peu dans la peau des disciples. Ils viennent de vivre 3 jours terribles. Ils ne savaient pas si c'était le Messie, après ils ont cru que ça l'était, finalement ils s'est laissé crucifier, ça ne peut pas l'être. Ils ont renié, ils ont trahi, vous imaginez, Judas qui a trahi, Pierre qui a renié. Ils ont peur, ils sont bouleversés. Je veux dire, quand on perd un ami proche, intime et tout ça, voir la crucifixion, je veux dire, l'horreur, la torture de quelqu'un, vous imaginez le bouleversement qu'ils étaient. Et là, ils ont besoin pour être encouragés qu'on leur montre la gloire de Dieu. Il est ressuscité, il est puissant. Regardez les lieux célestes, ça chante la gloire, etc. Et je crois qu'on passe trop vite. Et là, pour les consoler, pour les encourager, l'ange aurait très bien dire, dans quelques jours, dans quelques minutes, vous allez voir, vous allez peut-être croire que c'est le jardinier, mais non, je vous explique, ça ne sera pas un jardinier, ça sera vraiment Jésus, etc. Et puis il va venir, puis il va vous enseigner, puis vous allez baptiser, puis vous allez faire des miracles. Non. Il ne brûle pas les étapes. Il leur dit, regardez, prenez, venez. Venez, allez, on va regarder, on va s'arrêter. Regardez. Et il leur montre une pierre plate, lisse, vide. Bon, il y a, selon certains évangiles, aussi les linges pliés, hein, donc il y a des petits signes quand même. Mais... Non, regardez, il était là. Il n'est plus là. C'est là, mais ce n'est pas là. Vous ne le voyez pas encore. Jésus n'est pas là, il ne peut pas le montrer, pas entrer la gloire. Mais il leur dit, venez voir cette pierre. Et je crois que dans ces 7 venez, il faut comprendre le tout et chacun un enseignement hyper profond à nous. Ils se complètent les uns les autres pour qu'on soit vraiment dans le repos et dans la force d'aller, dans l'espérance. Et celui-là, on a peut-être le peine à s'arrêter. Est-ce qu'on sait, aujourd'hui dans notre vie avec Jésus, écouter l'ange qui nous montre juste la pierre vide? Regardez, vous ne le voyez pas encore, mais il n'est plus là. Vous voyez qu'il n'est plus tenu, lié par la croix. Il n'est plus en croix, la croix est vide. Et puis là, c'est son tombeau, ben regardez, il n'est plus là. On ne sait pas encore où il est, on ne l'a peut-être pas encore vu, mais en tout cas, il n'est plus retenu par la mort. Et c'est tellement pour moi encourageant, dans nos moments où on ne le voit pas encore, où on n'est pas encore sous une onction débordante, des moments où c'est un peu plus dur. Certains lundis matin, certaines fois, on se réveille avec une petite fièvre ou un mal de crâne, ben, on peut se souvenir. Attends, l'ange, il a dit, regarde, viens. Viens pas à moi cette fois, peut-être pour être guéri. On n'est pas toujours guéri. Mais viens, moi, je vais te montrer quelque chose, regarde. Et Dieu va nous montrer que le tombeau est vide. Que la mort n'a pas pu le retenir. Ok, t'es pas encore complètement dans la victoire, hein? Denise, on aimerait tellement que ses oreilles s'ouvrent. On n'est pas encore dans la pleine victoire. Mais on peut regarder que le tombeau est vide. L'ange nous dit, venez, viens ce matin. Contemple que même quand la victoire n'est pas totale, elle était totale, hein, mais que tu ne vois pas la totalité, toi tu es déjà guéri dans le ciel, mais pas encore. Eh bien, la pierre est libre, le corps de Jésus n'est plus là. Extraordinaire. Déjà, mais pas encore. Et le cinquième pour ce matin, le dernier, on le verra le 6 et le 7 et puis la suite une prochaine fois. Le cinquième, c'est Marc 6, c'est plus dans Matthieu, ça n'est un quand même dans les autres évangiles. C'est Matthieu qui a beaucoup ces mots « venez hein ». Mais il y en a, on va en voir un ou deux dans Marc et dans Jean. Donc Marc 6, 31, pour terminer ce matin cette première étape qui va aussi nous encourager. Je remarque juste, qui est intéressant encore dans celui d'avant, j'ai oublié une chose, le verset 7 de ce texte, c'est « allez le dire hein, à ses disciples ». Donc, venez, arrêtez-vous, et quand vous comprenez ce qui s'est passé, même pas totalement, mais vous comprenez que tombeau est vide, il nous est dit « allez le dire ». Donc, c'est aussi un encouragement, même quand on n'a pas tout compris, même quand on n'a encore pas été tout transformé, tout, voilà, eh bien, on peut déjà témoigner qu'en tout cas, la mort n'a pas pu le retenir. Et quand on est malade, quand on a une difficulté, quand on a une non-réponse, on peut dire « mais je ne peux rien témoigner ». J'ai toujours mal à la tête ou j'ai toujours pas retrouvé mon travail. Qu'est-ce que je vais aller dire que Dieu est vivant? Eh bien, tu peux dire que malgré ça, tu es toujours dans le chômage ou tu es toujours avec ton mal de tête, mais tu gardes la foi, tu crois en Dieu, ça t'encourage, tu peux prier, tu as des frères et sœurs, c'est tout un témoignage qu'on peut déjà voir. Allez le dire, même que vous voyez que le tombeau vide. Hein, encore pas vu Jésus, vous n'avez pas encore une guérison, mais tombeau est vide. Et ça, vous pouvez dire, vous n'êtes pas retenu par la mort, vous n'êtes pas lié par vos circonstances, c'est déjà un super témoignage. Donc, Marc 6, 31. Il est déjà là. C'est extraordinaire, ça. Tu connais déjà là, tout ce que je vais dire à l'avance. Marc 6, on va lire les versets 30 et 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc là, ils ont déjà été. Hein. Ce n'est pas le aller à l'ascension quand il quitte la terre, mais c'est quand il est sur la formation de disciples, hein, avec son équipe qu'il envoie, ils font des choses, et ils reviennent contents, et ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Jésus leur dit, allez encore, non, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, il y avait beaucoup d'alain et de venin, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Magnifique. Allez, 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 ils ont été, c'est très bien. Et ils sont contents. Et ils reviennent, ils racontent à Jésus. Je vais leur dire, c'est super, je vais vous donner encore une onction supplémentaire. Allez, non, étape. Venez. Venez avec moi dans un lieu désert. Il y a beaucoup d'allants et de venants. J'aimerais qu'on prenne un petit temps à l'écart. Et mes amis, saisissons cette opportunité de ces temps. Alors certains chez, ils ont le travail, ils sont encore plus stressés peut-être que dans d'autres périodes. Donc ce n'est pas forcément une période de calme pour tout le monde. Mais ceux qui ont un peu de calme, profitez de vivre ces venez. Venez dans un lieu à l'écart avec moi, parce qu'il y a beaucoup d'allants et de venants. Le Seigneur, on le voit par ces cinq premiers venez, nous encourage vraiment à trouver la paix, le repos. Il nous dit que tout est prêt. Il nous répète que nous sommes bénis de son Père. Il nous dit, voyez, il y a des signes, il y a des gestes concrets, il y a des points de repère, le tombeau est vide. Et venez encore quand vous allez, revenez dans un lieu tranquille avec moi. Et j'aimerais vraiment qu'on soit encouragé ce matin à dire, mais le Seigneur nous invite, vraiment, je crois que c'est une parole du Seigneur, nous dit, mais aujourd'hui, j'ai envie, j'ai besoin, je souhaite pour toi et pour moi que tu viennes dans un lieu à l'écart avec moi, pour trouver ce repos, pour trouver cet équilibre, pour trouver cette nouvelle instruction que le Seigneur veut nous donner pour nous faire du bien, pour qu'on soit heureux. Il nous veut notre bonheur et on peut toujours souvenir sa perspective, c'est que les nations vont aller à lui et qu'il va nous accueillir dans son règne. C'est ça notre perspective, qu'on soit encouragés, frères et sœurs, ce matin, et cherchons ce lieu secret avec le Seigneur, avec son intimité, parce qu'il désire que nous allions, mais il désire que nous venions. Amen. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour la richesse de ta parole et pour ton appel ce matin, dans ce temps particulier, à venir à toi pour être déchargé, pour être reposé, pour être encouragé, pour être relevé, pour être enseigné. Seigneur, nous voulons accueillir ces cinq venez. Nous voulons venir à toi. Nous voulons venir à l'écart. Nous voulons voir aussi le tombeau vide. Nous voulons entendre ta parole qui nous dit que nous sommes bénis de toi. Nous voulons jouir du bénéfice de cette parole que tu nous dis que nous sommes bénis, que tu nous attends là-haut. Nous voulons nous réjouir de ce que chaque jour tu veux nous aider à décharger nos épaules des jougs tellement lourds, tellement astreignants de notre monde, des fausses pensées, des faux raisonnements, pour recevoir de toi ton joug léger. Merci parce que tu es notre Dieu humble et doux. Accueillons le repos, le salut de Dieu par son Esprit qui veut communiquer à nos cœurs comme une guérison, comme une formation.